à quelqu'un. C'est à toi. Est-ce qu'on peut afficher le PowerPoint de la prédication ? Super, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est jour de fête, c'est un jour joyeux, on se réjouit. Mais l'été a été un peu éprouvant parmi nous. Il y a encore 3 jours, dans ces mêmes locaux, se trouvait ici, juste devant, le cercueil du petit Marius, enlevé à ses parents à l'âge de 7 jours. On a célébré 4 cérémonies d'obsèques depuis la mi-juillet, 2 hommes, 2 femmes, parmi lesquels un nouveau-né, une toute jeune femme de 21 ans, un homme dans la force de l'âge avec femme et enfant, une dame âgée. Des personnes au profil si varié qu'il est évident pour ceux qui ont traversé ces 4 cérémonies que si nous savons où nous sommes maintenant, aucun de nous n'a aucune idée de où il se trouvera en vrai dans 1 heure. Alors je sais que c'est un peu plombant pour un jour de baptême, mais si aujourd'hui n'est pas un jour pour se poser un peu et réfléchir au sens profond de la vie avant qu'elle n'atteigne son terme, alors quand ? Dans la fougue de la jeunesse, on pense que c'est trop tôt. Dans la course du quotidien, quand on a les enfants, le travail, on n'a pas le temps. Et dans les jours de la vieillesse, parfois, c'est un peu trop angoissant comme question. Que sont 20 petites minutes dans une vie si elles sont capables à elles seules de donner du sens à tout le reste ? On l'a vu, en un instant, assis sous un arbre, ça peut fonctionner aussi. Que sont 20 petites minutes si, par quelques mots, la lumière peut entrer dans les ténèbres de notre existence ? Alors, je vous propose d'essayer ce matin, modestement. Donnez-moi 20 minutes et en échange, je vais faire vraiment tout mon possible pour ne pas vous faire perdre votre temps. Je vais commencer par un petit jeu. Je vais vous présenter une parole de la Bible et je vais demander à celles et ceux qui le peuvent, je ne m'attends pas à ce que tout le monde le puisse évidemment, mais de la compléter. Mais on va essayer quand même pour voir ce que ça donne. Cette parole dit ceci. Elle ne dit rien du tout parce que ce n'est pas allumé. Voilà. Car Dieu a tant qu'il a donné afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait. Bravo, franchement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le texte du message de ce matin. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être la première fois que vous entendez cette parole, mais elle figure dans le top 3, pour ne pas dire dans le top 1, des versets les plus connus, appris, enseignés dans nos églises. Je crois qu'on l'a entendu ce matin. Pourquoi ? Parce qu'elle résume à elle seule ce qu'on appelle le kérigme, c'est-à-dire le cœur du message chrétien. Et vous savez quoi ? On ne compte plus les malentendus sur ce qu'est le message chrétien. La grande majorité des gens ont des idées préconçues très fortes sur la foi chrétienne, on l'a encore entendu ce matin dans le témoignage de Sophie, et se méprennent complètement sur ce que nous croyons, au point de pouvoir affirmer que le Dieu qu'ils nous présentent parfois et auquel ils ne croient pas, eh bien en fait, on n'y croit pas non plus. Beaucoup de méprise donc, et je dirais qu'à partir d'aujourd'hui, ça ne vous arrivera plus, au moins pour ce qui concerne le cœur de ce message. Voilà, ça c'est donc dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Ce petit bout de verset, ces 6 mots, nous parlent de 3 choses. Il nous parle de Dieu, il nous parle d'amour, il nous parle du monde. Et le Dieu dont il est question, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, celui dont la Bible nous dit qu'il est un, c'est-à-dire qu'il est unique. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est créateur de toutes choses. Et ce Dieu-là a aimé le monde. Le livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, la Bible, c'est une bibliothèque, il y a 66 livres dedans, en fait, c'est une compilation. Et le premier livre, qui s'appelle la Genèse, nous raconte comment tout a commencé et nous montre comment Dieu, après avoir créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, a regardé son œuvre et a dit « C'est très bon, c'est très bon ». C'est le regard que Dieu porte sur sa création. Il aime ce qu'il a créé. Et lorsque nous entrons dans ce regard de Dieu posé sur le monde, on peut non seulement s'émerveiller de la beauté de la nature, et en sa voix c'est facile, mais on peut aussi, et c'est un peu plus compliqué, poser ce même regard sur nous-mêmes, parce que nous sommes des créatures de Dieu. Nous pouvons poser sur nous-mêmes ce regard de Dieu qui, quelles que soient nos défaillances, quelles que soient nos limitations physiques, psychiques, nous regarde et dit « C'est très bon ». C'est très bon ce que j'ai fait. Tu es une créature merveilleuse. Mais la Bible nous dit aussi que cette créature merveilleuse, elle a un sacré problème. Ce problème, on le voit en Genèse chapitre 3, qui nous raconte l'histoire qui est communément appelée la chute. Ce problème, c'est que le monde n'est pas resté très bon. Nous ne sommes pas restés très bons. De là d'ailleurs, peut-être, toute la difficulté que nous pouvons avoir à nous aimer. Nous ne sommes pas restés très bons parce que le péché est entré dans le monde. Et nous ne nous aimons pas, ou nous pouvons avoir des difficultés à nous aimer, parce qu'au fond, nous connaissons notre péché, nous connaissons nos bassesses, nos infidélités, notre misère. Nous pouvons avoir des difficultés à nous aimer parce que nous savons que nous avons dû écraser quelques pieds, quelques têtes pour réaliser nos ambitions. Nous pouvons avoir du mal à nous aimer parce que nous avons une haute idée de ce qui devrait être. C'est un souvenir lointain, mais vivace, du jardin d'Éden, mais qu'en fait, on n'est jamais à la hauteur de ce qui devrait être. Parce que nous sommes pécheurs. Parce que Dieu nous avait montré le chemin de la vie et que nous avons choisi une fois et encore une autre fois et encore une autre fois de prendre une autre route qui, elle, nous mène à la mort. Alors devant l'angoisse existentielle qui peut nous étreindre quand on prend conscience de ça, on a deux options. La première, c'est la plus courante, elle consiste à nier ou à amoindrir le péché. C'est vrai que j'ai un peu menti, c'est vrai que je triche un peu de temps en temps, mais enfin j'ai tué personne, ça va quoi. Ça, c'est le chemin large dont nous parle la Bible. La Bible nous parle d'un chemin large qui est facile à trouver, facile à arpenter, mais qui mène à la perdition. Nous abaissons le standard de nos idéaux jusqu'à les ramener à un niveau affligeant de médiocrité. Alors quoi dans cette vie ? Notre seule ambition en matière de bonté, de générosité, de grandeur d'âme, c'est d'avoir tué personne. Mais il y a une autre solution qui est beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus exaltante aussi, qui est celle du chemin étroit, plus difficile, mais qui, lui, mène à la vie. Et cette option, elle consiste d'abord à faire quelque chose qu'on n'aime pas beaucoup faire, c'est de regarder notre péché en face. De dire, c'est vrai. C'est vrai que quand je regarde au fond de moi-même, ce que je vois, c'est de la misère. C'est vrai que je ne suis pas à la hauteur de cet idéal qui est profondément ancré dans mon cœur. C'est vrai que quand je regarde certaines de mes pensées, de mes paroles, même certains de mes actes, ce que j'éprouve, en fait, c'est de la honte. Et ça, c'est un excellent premier pas parce que la Bible nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui reconnaît sa faute que pour 1000 justes. Et peut-être devrait-on dire pour 1000 personnes qui se croient justes, qui se satisfont de leur propre médiocrité, qui justifient leur méchanceté. Mais il reste un problème, et c'est que ce monde-là, entaché par le péché, ne tient pas deux secondes face à un Dieu qui est saint. Un Dieu qui est amour, un Dieu qui ne tolère pas le mal. Alors je sais, on regarde le monde et on se dit « Dieu ne tolère pas le mal », bah dis donc. Pourtant, c'est parce qu'il manque le mal dans ce monde. Eh bien oui, Dieu ne se satisfait pas plus que nous de ce monde aux abois où l'homme est un loup pour l'homme, ce qui est une expression pas sympa pour les loups. Et donc, la Bible nous avertit, le salaire du péché, c'est la mort. Un jugement arrivera. Le salaire, c'est quoi ? C'est ce que tu reçois en retour de tes œuvres. Et si on regarde un peu les infos, on a, je crois, une bonne idée du salaire que le monde mérite pour ses œuvres. Mais si on regarde honnêtement au fond de notre propre cœur, on a aussi une idée du salaire que nous méritons pour les nôtres. Parce que oui, tu n'as tué personne, et encore peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, tu n'es pas sans tâche. Tu as toi aussi causé du tort autour de toi. Tu as pris dans ta vie des décisions néfastes qui te menaient sur un chemin de perdition et de mort. Alors je dis « tu », mais en fait on est tous dans la même galère. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. On est tous dans le même bateau. Et ce monde qui est gangréné par le péché et duquel nous sommes partie prenante, ce monde est condamné parce qu'il vit séparé de Dieu qui est la source de toute vie. Il est condamné, sauf que le verset ne s'arrête pas là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand la Bible parle de Jésus comme étant Fils de Dieu, ce qu'elle veut dire d'abord, c'est qu'il a été conçu miraculeusement, par intervention divine, sans intervention d'un homme. Il est donc issu de Dieu. Ce qu'elle veut dire ensuite, c'est vrai, c'est qu'il est de même nature que son Père. En Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui vient marcher parmi les hommes. Et c'est un scandale. C'est un scandale. C'est un scandale pour beaucoup aujourd'hui. C'était déjà un scandale pour beaucoup au premier siècle. En fait, c'est même le motif de la colère des accusateurs de Jésus. En Jean 10, nous lisons ceci. Jésus leur dit « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Parce qu'ils veulent effectivement lui jeter des pierres. Et les Juifs répondirent « C'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons. C'est pour un blasphème, parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. » C'est la prétention de Jésus, et c'est toujours un motif de scandale aujourd'hui. La Bible nous présente un Dieu bien singulier, puisqu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Ah, alors il y a trois dieux ! Et non, on l'a bien dit, et c'est le cœur du message de l'Ancien Testament, du Premier Testament, Dieu est un, il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est bien là tout le mystère de la Trinité, il y a un seul Dieu en trois personnes. Ah, c'est pas logique. Un plus un plus un, ça fait pas un, ça fait trois. C'est pas logique, diront certains. Ce n'est pas ta logique, répondront d'autres. Et c'est aussi bien comme ça, parce qu'un Dieu qui entrerait tout entier dans notre petit raisonnement humain, bien serait un Dieu aussi petit que notre petite tête. Évidemment que je ne saisis pas le tout du Dieu créateur du ciel et de la terre. Il est infiniment grand et je suis très limité. Si je comprends tout de lui, alors c'est que je me suis taillé un Dieu à ma mesure. Et oui, il y a une part de mystère. Oui, il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer. D'autres disent « Mais un Dieu si grand qui vient sur la terre, c'est pas possible. » Mais qu'est-ce qui est impossible à celui qui a tout créé ? Qui décrète ce qui est possible au Créateur ? C'est certainement pas la créature. La Bible nous parle d'un Dieu grand, créateur du ciel et de la terre, et qui, par amour pour sa création, a donné son Fils pour la sauver du péché qui l'afflige. Il a donné son Fils pour que le salaire du péché retombe sur lui plutôt que sur nous. Ce qui se passe à la croix, c'est que Jésus s'offre lui-même et meurt volontairement pour que nous puissions vivre. Et c'est là toute l'étendue de son amour. Il prend sur lui notre péché, il en paye le prix et il nous revêt de sa justice. Et ça, c'est cadeau. Il n'y a plus de condamnation pour qui est en Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On va aller lire en Éphésiens 2. Éphésiens, c'est donc une lettre de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Et je vais lire les 9 premiers versets qui nous disent ceci. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce, ça veut dire que c'est un cadeau. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ça n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Ce que ce texte nous dit, c'est qu'aucune œuvre bonne ne peut nous sauver de notre misère intérieure. J'ai eu le privilège, et je terminerai là-dessus, d'écrire sous sa dictée la biographie du fondateur des Restos du Cœur du Puy-de-Dôme. Je le dis sans crainte de briser son droit à l'anonymat, parce que quand vous faites une recherche sur Internet à son sujet, vous pouvez vous rendre compte à quel point les gens sont facilement oubliés, on ne retrouve aucune trace. Après une enfance difficile et une entrée dans l'âge adulte qui ne l'était pas moins, cet homme a consacré toute sa vie, toute son énergie à aider les autres. Ça, c'est le côté face de la médaille. Celui qui est visible du grand public, celui qui est admirable, celui qui brille de dévouement, de consécration. Le côté pile, c'est qu'il a sacrifié sa famille. Il s'est marié plusieurs fois parce qu'il était aussi présent auprès des pauvres qu'absent de son foyer. Et donc, ses épouses successives ne tenaient pas le choc. Il a eu des enfants avec ses épouses, mais alors qu'il était dans ses vieux jours, aucune d'eux ne voulait lui parler parce qu'il n'avait jamais été là pour eux. Et sa biographie, il l'écrivait pour ses enfants, justement. Sa biographie, elle consistait sur des dizaines de pages à justifier son absence qui avait causé tellement de dégâts dans leur vie par tout le bien qu'il avait fait autour de lui. Et voilà à quoi il s'accrochait. Mais j'ai fait le bien. Pas un mot de repentance pour ses absences. Pas une ligne de remise en cause pour le mal qu'il avait causé dans le cœur de ceux qui lui étaient le plus proches. Et en même temps, à l'âge où le jugement approche, c'était là son obsession, sa crainte, son angoisse. Que la balance penche du bon côté, quoi. Avec tout le bien que j'ai fait. Il trouvait du réconfort chez son médecin qui lui disait « Si vous, vous n'allez pas au paradis, mais je ne vois pas qui ira. » Mais Dieu ne fait pas ses comptes d'apothicaire. S'il les faisait, on serait cuits tous. La mauvaise nouvelle, c'est qu'avoir fondé une œuvre aussi généreuse que les Restos du Cœur n'efface en rien le mal que vous avez commis. La bonne nouvelle, c'est que le salut ne dépend pas de vos œuvres. Le salut dépend de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et ça, c'est acté, c'est fait. Il a payé le prix de vos fautes. Si vous reconnaissez votre péché, Dieu est fidèle et juste pour vous le pardonner. Et ce salut, qui prend forme dès ici-bas et qui se déverse jusque dans l'éternité, est le don gratuit de Dieu. Il se reçoit par la foi, en Jésus-Christ. Alors, il se peut que tu ne vois absolument pas de quoi je parle quand je parle de la misère de notre cœur, du péché qui nous affecte, des mauvais penchants qui nous pourrissent la vie et qui nous mènent inexorablement vers la mort. Si c'est le cas, si quand tu fais ce travail d'introspection, tu ne vois rien de tout ça, pas de problème. Ce message aura glissé sur toi comme l'eau sur les plumes d'un canard. Peut-être qu'il retentira plus tard, à un moment où tu verras les choses autrement. Mais peut-être aussi qu'au contraire, tu vois très bien de quoi je veux parler. Peut-être que tu te revois pleurer sur toi-même dans le secret de ta chambre, avec cette sensation épouvantable que tu n'as aucune porte de sortie. Peut-être aussi que ce que tu ressens, c'est à quel point ton cœur est vide, un vide tel que personne n'a jamais pu le combler et qui te fait te sentir seul même quand tu es entouré. Eh bien, le Dieu de Jésus-Christ vient combler ce vide de son amour. Parce que Dieu te regarde et il t'aime. Il t'aime comme tu es. Il sait tout. Rien de ce que tu es, rien de ce que tu as fait, ne lui est inconnu. Il te connaît dans les moindres détails et il ne te condamne pas. Il t'aime et il vient te sauver. Ce matin, il t'invite à t'abandonner à lui parce que s'il t'aime comme tu es, il ne veut pas non plus te laisser tel que tu es. Il veut te sortir de là. Et nous sommes nombreux à pouvoir témoigner ce matin ici que non seulement il le veut, mais surtout qu'il le fait. Et c'est à ce Dieu que Jemila et Sophie ont dit oui ce matin. Unie à Christ dans sa mort, c'est le sens de l'immersion, ce que j'expliquais tout à l'heure, elles sont unies à lui dans sa résurrection. Elles sont nées à une vie nouvelle et c'est ce qu'elles ont voulu manifester par le baptême. Alors Jemila, Sophie, que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse dans cette vie nouvelle qu'il déroule devant vos pas. C'est une aventure qui est parfois éprouvante, mais elle est toujours exaltante et toujours pleine de sens. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu ne nous laisses pas dans notre misère. Seigneur, nous voulons reconnaître devant toi que nous sommes pécheurs, comme on l'a entendu ce matin, que nous passons souvent à côté de notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire passer à côté de sa vie ? Ça veut dire passer à côté de la vie que toi tu as prévue pour nous, pensée pour nous, une vie de sainteté. Une vie où nous savons marcher droit devant toi. Seigneur, bien souvent, nous entendons d'autres voix et nous les écoutons et elles nous éloignent de toi. Nous le reconnaissons, Seigneur. Nous te demandons pardon. Nous savons, Seigneur, que cet état de fait nous amène sur des chemins de perdition, nous amène à la mort. Nous savons que rien de ce qu'on peut faire ne peut rattraper le mal qu'on a fait, parce que le mal est fait. Seigneur, nous savons que notre salut ne dépend que de toi, de ta grâce, de ta bonté. Si tu ne viens pas nous chercher, Seigneur, nous sommes perdus. Mais tu l'as fait. Tu as envoyé ton Fils. Tu as envoyé ton Fils qui est mort à la croix pour nous. Qui a pris sur lui la condamnation qui pesait sur nous, qui a pris sur lui la colère qui pesait sur nous à cause de nos fautes. Et lui nous a revêtus de sa justice. Seigneur, tu nous pardonnes et c'est cadeau. Ça semble tellement trop beau pour être vrai, Seigneur. Pourtant, c'est vrai. Et ça nous amène à une vie de louange et de reconnaissance. À une vie où nous t'exprimons notre amour par nos œuvres, mais pas pour acheter ta faveur, mais parce que nous sommes aimés, parce que tu nous as aimés le premier. Seigneur, c'est une vie merveilleuse que celle-ci. Vivre une vie entière de reconnaissance pour ce que tu as fait pour nous. Seigneur, nous voulons marcher à ta suite parce que celui qui a fait ça pour nous a une parole qui est digne de confiance. Une parole qui est plus digne de confiance que notre propre parole, que nos propres pensées. Seigneur, nous voulons te connaître toujours davantage. Nous avons vu ce matin deux personnes qui sont sur ce chemin, qui ont manifesté par leur baptême le fait que, voilà, elles t'appartiennent en fait. C'est pas elles veulent, c'est elles t'appartiennent maintenant, Seigneur. Tu as posé ton sceau sur elles ce matin. Elles sont à toi. Tu es leur maître, leur Seigneur, leur Sauveur. Et Seigneur, tu les guides sur ce chemin. Tu précèdes chacun de leurs pas. C'est tellement reposant, Seigneur, de marcher à ta suite plutôt que de nous débattre par nos propres forces sans pouvoir y arriver. Seigneur, nous te prions pour que cette grâce retombe sur chacune des personnes qui, ce matin, où qu'elles en soient avec toi, ont reconnu en elles-mêmes ce poids de leur péché qui les écrase, qui les étouffe. Seigneur, tu as offert cette porte de sortie. Nous te prions pour qu'elles puissent maintenant la saisir. Au nom de Jésus. Amen.